C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire, rire,
bien dormir.
Bouger, faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo le spaghetti.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi, bon vendredi, j'espère que vous allez bien. C'est Marianne Paquette au micro qui est là pour les 30 prochaines minutes. C'est l'émission C'est bon pour la santé sur Canal M. Le terme résilience qui a été vulgarisé il y a quelques années, médiatisé aussi beaucoup, d'abord par le psychiatre et psychanalyste français Boris Cyrulnik, qui a d'ailleurs publié quelques livres à ce sujet-là, et lui-même désignait la résilience comme, et c'est très beau, très poétique, l'art de naviguer dans les torrents. En plus simple, ça pourrait vouloir dire la capacité de surmonter les épreuves, de se reconstruire, même si on a vécu des souffrances, des difficultés. Et la résilience, ça ne concerne pas seulement les adultes, c'est aussi pour les enfants. Elle peut améliorer leur capacité à surmonter des défis, les petits défis de la vie, les plus grands également, à s'épanouir aussi. Et j'en parlerai en deuxième partie d'émission avec Dr. Annie Lamonde, elle est psychologue pour le Service canadien en santé mentale pour francophones. Et puis, pour une deuxième année consécutive, le grand public est invité à une grande fête de la science, celle du Festival Eureka au Vieux-Port de Montréal, du 12 au 14 juin. Donc, ça commençait ce matin. Et pour nous en parler davantage, Martin Carly, lui, présentateur du Festival Eureka. Martin Carly, bonjour.
Bonjour.
Ce que j'ai oublié de dire, c'est que vous êtes sur place en ce moment, donc ça se peut qu'on entende tout l'effervescence en arrière de vous, là.
Tout à fait, exactement. On a encore, on entend encore des cris d'enfants qui s'émerveillent et qui dépensent de l'énergie autour de moi. C'est très possible.
Bien ça, je trouve ça intéressant de commencer d'entrée de jeu avec ça, avec tout l'entrain. Parce que, bon, vous êtes, il faut le dire, je pense, vous êtes vulgarisateur scientifique, animateur aussi de télé pour l'émission Génial à Télé-Québec. Voilà. Au départ, là, rendre accessible la science, la rendre tripante, c'était un grand défi pour le Festival Eureka.
C'est un défi, puis en même temps, c'est l'objectif ultime. Parce que trop souvent, on a véhiculé une image... à la télé, dans les films, ainsi de suite, du scientifique qui était quelqu'un d'austère, qui n'avait pas vraiment de vie, pas très créatif, et qu'on illustre souvent avec son sarrau, ses lunettes brisées, sa pochette de feutre. Là.
Ouais.
C'est très important de montrer qu'en réalité, c'est pas du tout ça qui se passe en science. On trouve plutôt des gens extrêmement créatifs, ce qui est important, mm-hmm. parce que on demande aux scientifiques de trouver de nouvelles expériences, de trouver de nouvelles façons de répondre à des questions fondamentales. Et donc, ça prend beaucoup de créativité pour ça. Et moi, dans mes années de recherche, je n'ai côtoyé que des gens créatifs, bons vivants, qui avaient envie de partager le plus possible avec les autres leurs découvertes et leurs connaissances. Puis, Dans un festival comme Eureka, ben c'est justement cette vraie image-là qu'on véhicule et qu'on cherche à présenter aux jeunes.
Mm-hmm. Et d'ailleurs, pour cette 9e année, le festival Eureka a choisi le jeu comme thème.
Oui, absolument. Évidemment, c'est en arrimage avec l'exposition temporaire actuelle présentée au Centre des sciences, qui est une exposition qui s'appelle Game On, c'est sur le jeu vidéo. Donc, en s'arrimant avec cette exposition-là, ben, le thème du jeu s'est imposé tout naturellement. Par contre, la différence entre les deux, c'est qu'au Festival Eureka, c'est le jeu sous toutes ses formes. Donc, ce n'est pas uniquement le jeu vidéo, mais c'est aussi toutes les formes de jeu. On a même, par exemple, des experts cubeurs capables de résoudre des cubes Rubik en moins de 10 secondes. C'est comme de la poésie, ça n'a pas de bon sens. Donc, c'est vraiment le jeu sous toutes ses formes au Festival. En parallèle à l'exposition qui est sur le jeu vidéo spécifiquement au Centre des sciences.
Oui, le jeu, bon, bien sûr, on pense à l'industrie des jeux vidéo, mais aussi le jeu comme outil d'apprentissage, les bienfaits pour l'être humain du jeu, des quiz, des activités ludiques, des simulations, tout ça, c'est assez complet. Martin Carly, bien sûr, le jeu, on le comprend bien, ça fait partie de notre vie, notamment chez les enfants,
oui.
Mais la science au quotidien, on l'utilise à peu près tout le temps, mais on s'en rend pas compte.
Exactement. Et je pense que c'est toujours le meilleur angle, je dirais, pour présenter cette science-là. De toujours s'accrocher au quotidien des gens, de toujours démontrer à quel point la science fait partie de notre vie. La seule chose, c'est qu'on ne s'arrête pas pour y penser, oui. Mais des choses aussi simples que comment la chasse d'eau de la toilette fonctionne, comment le grille-pain fait pour savoir quand la rôtie est prête, et ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a de la science absolument partout. Notre environnement est rempli comme ça de découvertes techniques et technologiques qui ont été faites par des scientifiques et qui nous facilitent la vie, qui influencent directement notre mode de vie actuel.
Mm-hmm. Martin, au sein même de la programmation du Festival Eureka, il y a différentes zones pour intéresser vraiment tout le monde. Il y en a pour tous les goûts.
Absolument. Là, c'est vraiment... on parle de plus d'une centaine d'activités interactives. Et je mentionne, toutes ces activités-là sont gratuites, oui. Donc il n'y a aucun coût à défrayer pour venir participer au festival. Et elles se déclinent dans différentes zones. Il y a évidemment la zone aéronautique, aérospatiale, il y a la lumière, ça c'est important parce que c'est l'année de la lumière, oui. Au niveau scientifique, à l'échelle internationale. Donc il y a toutes sortes de zones comme ça, avec des activités pour tous les goûts, et je dirais aussi pour tous les âges, parce que faut pas faire... faut pas assumer tout de go que c'est uniquement pour les enfants. C'est vraiment pour toute la famille. C'est les enfants de 7 à 77 ans, comme on le disait dans Tintin. c'est vraiment le cas. Et on a aussi des spectacles, des conférences, vraiment des activités de toutes sortes. Et moi, ce que je trouve vraiment bien dans tout ce contexte-là, c'est que on a enfin la chance de rencontrer et de côtoyer pendant cette fin de semaine des vrais scientifiques. Ouais. Qui font de la vraie science et avec leurs vrais outils, donc leurs vraies machines, leurs appareils et tout ça. Et ça, c'est pas une opportunité qu'on a souvent. Donc, c'est vraiment bien de pouvoir venir les rencontrer et voir de très près avec quoi ils travaillent, sur quoi ils travaillent. Et puis, en même temps, ben ça permet de voir que des disciplines et des possibilités de carrière en science, oui. C'est extrêmement varié. Il y en a pas mal plus que ce qu'on pense. On est loin de seulement se dire, ben, OK, il y a des médecins, il y a des ingénieurs et quoi d'autre. Là. C'est, oui. Il y a toutes sortes de carrières possibles en sciences et le festival en fait étalage de belles façons.
Ça m'amène à cette question, Martin Carly. Il y a quelques années, l'enjeu, c'était d'intéresser les filles aux sciences. Est-ce qu'on y a réussi avec toutes les stratégies que l'on a employées pour le faire?
Je pense que c'est un projet qui est à renouveler constamment. Puisque l'objectif précis, notamment de l'initiative, l'événement Les filles et les sciences, un duo électrisant auquel je participe à chaque année maintenant depuis quelques années, c'est à chaque fois réintéresser ou intéresser les filles aux sciences à un âge critique, on parle de secondaire 2, juste avant qu'elles fassent leur choix de cours pour le secondaire 3, pour s'assurer qu'elles incluent des cours de sciences dans leurs intérêts, dans leurs choix à faire. Donc ça c'est un comme la cohorte de filles en secondaire 2 change à chaque année, ben ouais. C'est un événement qui est à renouveler à chaque année parce qu'encore aujourd'hui on constate que dans certaines disciplines, pas dans les disciplines qui touchent le monde médical ou biomédical, mais dans des disciplines plus comme le génie, pardon, ben il y a encore c'est encore tout à fait inégal. Il y a des
encore plus de garçons.
C'est moins de 30% de filles. Et ça, c'est vraiment dommage parce qu'on sait que les filles réussissent très bien académiquement. Donc, c'est vraiment pas une question d'aptitude académique. C'est vraiment une question d'intérêt. En tout cas, c'est ce qu'on croit. Ouais. Et puis, se priver d'autant de belles relèves que ça, c'est dommage. Alors, c'est à recommencer à chaque année, de réintéresser les filles aux sciences. Ouais.
Martin Carly, vous savez, l'émission s'appelle « C'est bon pour la santé ». Donc, oui. Je m'intéressais davantage aux activités qui sont liées à la santé dans le cadre du Festival Eureka. Il y en a quelques-unes quand même.
Oui, tout à fait. Il y en a quelques-unes. Donc, on a toujours l'occasion, et puis ça, je trouve ça intéressant, de mettre la loupe sur le corps humain, parce que ce corps-là qu'on a, c'est celui qu'on a, c'est celui avec lequel on vit. On a tendance à le prendre beaucoup pour acquis, et puis il nous réserve bien des surprises lorsqu'on tourne le regard justement sur ce corps humain-là. Eh bien, il y a des activités qui sont prévues à cet effet, qu'on parle d'alimentation, de santé et tout ça. Il y en a aussi pour ceux que ça que ça intéresse. Là, parmi la centaine d'activités, il y en a, donc vous y trouverez votre compte aussi, bien entendu.
Et en terminant, Martin, il y a une initiative du Festival Eureka qui s'appelle Eureka à l'année.
Oui.
Donc, ce sont des activités qui sont offertes tout au long de l'année, c'est bien ça?
Absolument. C'est vraiment c'est une collaboration entre le Centre des sciences, qui chapeaute le Festival Eureka, bien entendu, la CRE, donc la Conférence régionale des élus,
oui,
et l'Île du Savoir. Et l'objectif de ça, c'est un, de coordonner la venue au Festival des écoles. Donc aujourd'hui, c'était vraiment la journée scolaire du festival. Donc c'est coordonner leur venue, mais surtout préparer leur venue avant. Donc, leur permettre de faire différentes activités avant de venir au festival. Ils avaient cette année à trouver des indices sur les différents collaborateurs qu'on retrouve ici au festival pour en savoir plus sur eux. Ce qui fait que lorsqu'ils arrivent ici sur le site, ben ils ont déjà une bonne idée, une bonne préparation, et ils peuvent tirer profit au maximum de cet événement-là.
Mm-hmm.
Et non seulement il y a ça, mais en plus, on remet des bourses à trois classes qui ont été choisies par tirage au sort, qui ont participé à cette activité-là, Eureka à l'année. Donc, on remet trois bourses, des bourses de 1000 $ qui seront dépensées par la classe l'année prochaine pour développer des activités scientifiques à l'école. Donc, je pense que c'est une belle initiative. Ça permet d'avoir une belle visite pour les élèves ici lorsqu'ils arrivent. Puis, en plus, ça donne la chance à quelques classes d'avoir des sous pour faire encore plus de sciences pendant l'année suivante.
Martin Carlier, on va devoir vous laisser filer. Je pense que vous avez une conférence à 14h15, c'est ça?
Oui.
Donc...
Oui, en fait, oui, puis on peut me voir, bien entendu, toute la fin de semaine ici. Et demain soir à 20h30, je fais un spectacle de sciences ici au Festival Eureka sous la grande tente avec mon acolyte Stéphane Bellerand.
Bien
avec
sûr.
Avec le plaisir d'animer Génial. Donc, les gens qui veulent voir ça, qui veulent voir en direct Stéphane et moi faire des expériences inédites que pour la plupart, personne n'a encore vu à l'émission. Ben, c'est demain soir, 20h30, que ça se passe.
Festivaleureka.ca pour en savoir davantage sur la programmation.
Absolument.
Bon festival, Martin Carlier. Merci d'avoir pris le temps de nous en parler aujourd'hui.
Ben, merci de l'invitation. Bonne fin de journée.
Au revoir.
Au revoir.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, dans la région de Montréal, 514-282-1999, poste 220, et sans frais ailleurs au Québec, 1-800-361-0635 et par courriel à mpaquette@commercialvusezvoix.com. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé, et sur Twitter, @commercial_canal_M.
Annie Lamonde, bonjour.
Bonjour, Marianne.
Vous êtes psychologue pour le Service canadien en santé mentale pour francophones et là pour nous parler de la résilience, comment on peut la favoriser auprès de nos enfants, que ce soit à la maison ou à l'école. D'abord, Annie, la résilience, ça me semble être un phénomène plutôt nouveau en psychologie. Pour les gens qui nous écoutent à la maison, qu'est-ce que ça signifie en simple?
Oui, bien, je pense que c'est une nouvelle façon peut-être de parler de plusieurs aptitudes que les gens vont acquérir, soit à travers leurs expériences ou par l'entremise de nos interactions avec les gens. Donc, la résilience, c'est vraiment notre capacité de faire face aux événements de vie puis en gardant une vision optimiste par rapport à la situation.
Mm-hmm. Ah. Je pense que c'est important de dire d'entrée de jeu, Annie, que la résilience, ce n'est pas une qualité. On n'est pas nécessairement avec. C'est quelque chose qui peut se développer en cours de vie.
En effet, parce qu'on parle d'aptitudes, donc c'est des aptitudes comme les aptitudes émotionnelles, la capacité à gérer nos émotions. On sait bien, nos petits nourrissons, ils sont pas en mesure de bien gérer la colère, la tristesse. Eux, il faut que les exprimer. C'est avec les interactions avec les parents qu'au fur et à mesure, on va les développer. Et c'est la même chose pour les autres aptitudes également. Donc, notre capacité à entrer en relation avec les autres, nos capacités de raisonnement, nos compétences de façon générale, puis notre capacité à être optimiste puis à voir la vie d'un œil positif.
Donc, on pourrait dire, Annie, que tout le monde peut être résilient au bout du compte.
Oui, à des niveaux variables, évidemment.
Et ça dépend de quoi, en fait, ces niveaux variables-là, on peut les qualifier de comment?
Mais c'est sûr qu'on a tous notre propre tempérament. Alors, les enfants, ça, c'est des qualités ou des facteurs qui sont là à la naissance. Donc, notre niveau d'activité, notre niveau de distractibilité, l'intensité avec laquelle on fait face aux situations de vie, ça, ces éléments-là, ils vont varier d'une personne à l'autre. Alors, ça va favoriser soit le développement de certaines compétences ou les rendre un peu plus difficiles à acquérir. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'on ne peut pas devenir résilient avec le temps.
La résilience, de quelle façon ça peut aider notre enfant dans son parcours, autant à la maison qu'à l'école?
Mais, comme on mentionnait tantôt, c'est notre capacité à se rétablir face à un événement qu'on évalue comme négatif. Alors, les enfants, à travers les expériences à l'école et tout ça, on vit toutes des situations où, par moment, on a des déceptions, on a des conflits avec les amis. Alors, notre résilience, notre capacité à raisonner, à analyser cette situation-là, puis dire, OK, ben aujourd'hui, j'ai vécu un conflit avec un tel, mais... Demain, ça pourrait aller mieux ou c'est pas la seule chose négative qui s'est passée aujourd'hui. J'ai quand même eu du plaisir avec mes autres amis. Ça va aller mieux la prochaine fois.
Donc, c'est aussi de croire en l'avenir, d'avoir de l'espoir aussi, de cultiver ça.
Oui, définitivement. Évidemment, un espoir ou un optimisme qui est sain, qui est raisonné. Ouais.
Il y a quatre, si je ne me trompe pas, Annie Lamonde, il y a quatre composantes à la résilience, des composantes qu'il faudrait développer ou peut-être aider notre enfant à développer.
Oui, et tout comme on avait parlé pour la discipline positive, les relations avec les parents, ça c'est notamment l'élément de base. Alors, développer des bonnes relations avec nos enfants, développer un sentiment d'appartenance, savoir qu'on peut compter sur quelqu'un. Puis évidemment, quand on est petit, les premières personnes sur lesquelles on tend à compter, c'est nos parents. Puis d'être capable de demander de l'aide, ça fait toute partie des aptitudes plutôt sociales, reliées à nos relations avec nos parents. On a les aptitudes émotionnelles, donc la capacité de gérer les émotions, à composer avec elles sans qu'on devienne submergé. Ça, c'est une autre des aptitudes à développer. Évidemment, les compétences pour la résolution de problèmes, le raisonnement, puis aussi être capable de reconnaître nos propres compétences. Je veux dire, on a tous des habiletés différentes des autres, des talents différents des autres. Donc, la capacité de les reconnaître, ces compétences-là. Puis, évidemment, comme on a mentionné, développer l'optimisme, cette attitude positive envers l'avenir.
J'entends, bon, notamment en ce qui a trait aux aptitudes liées au raisonnement, la résolution de problèmes, qu'il y a quelque chose aussi avec l'acceptation de nos limites. Et ça, c'est assez difficile à faire comprendre à un enfant, de dire, bon, tu as tel type de limite, mais c'est pas grave, tu as d'autres talents.
Oui, effectivement, mais ça fait aussi partie de être capable de se fixer des objectifs. Alors, peut-être que, bon... Prenons l'exemple d'un enfant qui a de la difficulté à lire à l'école. Mais oui, peut-être qu'à ce moment-là, au moment où il est en train de faire la lecture, il y a un peu de difficulté, mais on peut l'aider à relativiser en disant, passé, il y a quelques mois passés, tu avais de la difficulté à faire la lecture d'un texte de 3-4 lignes. Mais là, aujourd'hui, regarde, t'es capable d'en lire beaucoup plus que tu l'étais avant. Donc, l'aider à voir qu'il y a un développement dans ses habiletés, puis de dire, ben maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour que ça continue ces progrès-là? Oui, de reconnaître qu'il y a une difficulté, mais en même temps, de se fixer des objectifs, puis de voir, bien, c'est quoi les stratégies qu'on va prendre pour développer cette habileté-là. Mmh.
Et j'imagine que selon l'âge de notre enfant, on ne peut pas avoir les mêmes attentes. La résilience se développe différemment si notre enfant a 6 ou 11 ans.
Oui, évidemment. Bon, prendre l'exemple de notre petit nourrisson qui, lui, ne pouvait pas composer avec les émotions, c'est vraiment le parent qui l'aide à gérer colère, tristesse, et etc. Mais c'est la même chose pour nos enfants de 6 à 8 ans. Eux, et bon, ils commencent à développer des relations un peu plus indépendantes avec leurs grands-parents, mais ils vont continuer à avoir de l'aide pour s'entendre avec les autres, comprendre comment leur comportement affecte peut-être les sentiments de leurs amis. Mm-hmm. Tandis que les enfants de 11-12 ans, ben eux, ils comptent plus trop sur l'intervention des parents pour régler les conflits, mais ils vont quand même avoir besoin de comprendre un peu pourquoi certaines situations peuvent leur arriver.
Mm-hmm. Et quand même d'aide et de soutien de la part de leurs parents.
Toujours, oui. Ouais.
La résilience, ça se passe différemment aussi selon si on est un garçon ou une fille, je pense.
Oui. Évidemment, les garçons, les filles n'ont pas nécessairement la même façon de composer avec leurs émotions. D'une part, les garçons sont moins verbomoteurs, donc sont moins portés à parler de leurs sentiments. Ils vont être plus portés à réagir physiquement lorsqu'ils sont fâchés. Par contre, à l'envers, ils apprennent aussi à maîtriser certaines émotions plus rapidement. Hein. On entend encore, les garçons, ça pleure pas, donc la tristesse, eux, ils vont peut-être la maîtriser un peu plus vite que les filles. Tandis que les filles, elles, parce qu'elles communiquent beaucoup, puis il est possible qu'elle va acquérir certaines aptitudes liées au raisonnement ou à d'autres compétences, comme être en mesure de rester assis puis de demeurer attentive en salle de classe. Mm-hmm. Alors, c'est sûr qu'on va voir certaines différences selon qu'on interagit avec un garçon ou une fille.
Oui. Maintenant, pour le temps qu'il nous reste, Annie Lamonde, des stratégies peut-être plus concrètes à employer auprès de nos enfants, par exemple, si on veut favoriser la résilience à la maison?
OK. Bien, bon, évidemment, on mise beaucoup sur la relation positive avec notre enfant. Donc, ça demeure un endroit où on veut investir, passer du temps avec eux, apprendre comment se passe leur journée, c'est quoi leurs intérêts. Évidemment, favoriser une bonne communication aussi. Donc, prendre le temps d'écouter nos enfants, de parler de leur journée, leur donner de l'attention lorsqu'ils le demandent. Alors, des fois, aussi, il faut gérer ce besoin d'attention-là. Mm-hmm. Puis, de profiter des moments comme les repas, les déplacements en voiture, etc., pour solliciter aussi leurs opinions pendant les discussions qu'on peut avoir avec d'autres personnes autour de nous. Mm-hmm. Donc, évidemment, les éléments qu'on a parlé par rapport à la discipline positive, ça demeure des choses à entretenir. Puis, les aider à gérer leur stress aussi. Alors, c'est des opportunités pour les aider à reconnaître, un, l'impact de leur propre vécu, leurs propres émotions, puis de voir comment ça a un impact sur leur comportement, puis qu'est-ce qu'ils peuvent faire à court terme là, pour gérer leur stress. Donc, si on voit que les enfants ont plus de difficultés, par exemple, c'est le temps des examens présentement, là, à la fin de l'année scolaire, alors de les encourager à, oui, étudier, bien sûr, mais aussi de savoir comment, quand c'est le temps de prendre une pause pour pouvoir se libérer un peu de ce stress-là.
Oui. Pour aussi obtenir des stratégies, des trucs concrets, vous pouvez Vous pouvez consulter la brochure « Les enfants peuvent s'en sortir, favoriser la résilience des enfants à la maison comme à l'école ». Et c'est une publication de la Fondation de psychologie du Canada. On la mettra sur le site du Canal M. Des stratégies, Annie, bon, bien sûr, il y a toujours l'enseignant qui est là, qui est l'adulte signifiant pour notre enfant à l'école, mais on peut quand même l'aider dans son parcours scolaire à développer la résilience.
Oui, mais évidemment, en valorisant l'importance de l'éducation, c'est une façon de valoriser la résilience à l'école, mais aussi s'assurer que nos enfants sont disposés à apprendre, donc s'assurer qu'ils ont bien dormi le soir d'avant, de pouvoir qu'ils ont bien mangé, qu'ils ont à leur disposition les choses dont ils ont besoin pour aller à l'école, se renseigner aussi sur les attentes de l'école. Alors, si on n'est pas certain c'est quoi les attentes par rapport à faire les devoirs ou la remise des travaux, mais c'est important de se renseigner pour pouvoir appuyer notre enfant. Puis, évidemment, la période des devoirs aussi, d'aider les enfants à bien s'organiser, d'avoir le matériel nécessaire, un temps aussi pour faire les devoirs, tous des éléments qui vont les aider à être plus résilients en salle de classe.
Et en terminant, la résilience, et je le disais tout à l'heure, je parlais de la résilience chez les adultes. Là, aujourd'hui, on a parlé notamment de la résilience chez les enfants, mais ça part du parent, tout ça, là.
Évidemment. Alors, nous aussi, comme parents, il faut prendre soin de soi. Les mêmes éléments, les mêmes aptitudes qu'on a parlé pour les enfants, donc développer un bon réseau social, s'assurer d'être en mesure nous-mêmes de bien gérer nos émotions, de reconnaître nos forces, puis d'aller chercher de l'aide quand on en a besoin, s'il y a des compétences qui nous manquent. C'est définitivement des façons de nous aussi nourrir notre résilience.
Oui, parce qu'on prêche par l'exemple.
Exactement.
Les petits sont des éponges qui aiment bien nous observer.
Et nous imiter.
Oui, voilà. Alors, on mettra, comme je le disais, le lien vers la brochure « Favoriser la résilience des enfants à la maison ». Comme à l'école, je vous le rappelle, une publication de la Fondation de psychologie du Canada. Et vous, Annie Lamonde, vous êtes psychologue pour le service canadien en santé mentale pour francophones. Merci beaucoup, un plaisir de vous parler.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
C'était Marianne Paquette au micro, Rémi Hermoso à la mise en onde. On vous souhaite un très, très beau week-end. Profitez-en pour vous reposer. Et nous, la semaine prochaine, on vous revient avec la dernière semaine de l'émission « C'est bon pour la santé » sur Canal M. On vous proposera encore, je l'espère en tout cas, du moins une panoplie de sujets qui sauront vous intéresser. Puis n'hésitez pas à nous joindre 1-800-361-0635, poste 220. On est en rediffusion à 17h à lundi. Bon week-end.